Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats, de points de vue. C'est un autre regard sur l'actu que l'on vous propose chaque soir entre 18h et 20h. Et ce soir, on évoquera l'avenir du Liban, qui est au cœur de la visite d'Emmanuel Macron. Vous le savez, il rencontre en ce moment les leaders de l'opposition, notamment. C'est la dernière chance, dit-il, notre invité à 18h20, le président du patronat libanais, Fouad Zmokol. Darmanin contre Dupond-Moretti, le ministre de la Justice retacle l'ensauvagement cher à son collègue de l'Intérieur. Je n'entends pas flatter les bas instincts, dit-il. On en parle avec les grandes voix à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, le club des idées d'Europe Soir. C'est votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change, débattre, confronter et prendre le temps de se faire son opinion. Et ce soir, cette question. La France est-elle toujours Charlie? À 24 heures du début du procès des attaques terroristes, le journal republie des caricatures du prophète. Alors peut-on encore critiquer l'islam en France? Et quelle forme prend vraiment ce séparatisme dont on parle tant? Le débat à 19h20 avec notamment le dessinateur Plantu. Mais d'abord, c'est l'heure du journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue.
C'est génial, c'est une idée de Riz, ça m'étonne pas de lui parce que il a un instinct journalistique formidable.
Alors que s'ouvre demain le procès historique des attentats de janvier 2015, c'est une décision lourde de sens. Charlie Hebdo republie les caricatures du prophète Mahomet qui avait fait de l'hebdomadaire satirique une cible des djihadistes.
Les suites des révélations d'Europe 1 sur Lafarge qui déverse du béton dans la Seine en plein Paris, Anne Hidalgo dénonce un scandale écologique.
La deuxième visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth, le président français s'est fixé une délicate mission. Exigence sans ingérence.
Et si la droite soutenait Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle, idée lancée par le républicain Christian Estrosi, la droite s'étrangle.
La rentrée scolaire, comment ça s'est passé chez vous? Lionel Gougelot, lui, a passé la journée avec des profs et des élèves dans un collège de Douai. Bilan, on le verra, globalement positif.
Première arrivée au sommet pour le Tour de France, quatrième étape en altitude remportée par l'un des favoris, le Slovène Primož Roglič. Julien Alaphilippe, de son côté, conserve le maillot jaune.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,18% à 4 938 points.
Et puis la tendance météo avec vous, Anissa. Nuages, soleil et fraîcheur, tout ça en même temps.
Et ben voilà, vous avez résumé la journée de demain, Julien. Les nuages le matin, le soleil presque partout. Quelques petites averses et de la fraîcheur. C'est le programme de demain que je vous détaille à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous ne renoncerons jamais, dit le directeur de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique qui a donc décidé de republier les caricatures de Mahomet qui en avait fait la cible des djihadistes.
Et cela alors que l'on est à la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015.
Un choix pour le moins osé que les intéressés justifient, Rémi Bostaron, par une forme de résistance.
Oui, reproduire ces caricatures était indispensable, écrit l'équipe de Charlie Hebdo qui ajoute « Toutes les raisons qu'on pourrait nous opposer ne relèvent que de la lâcheté politique ou journalistique. Nous ne nous coucherons jamais », résume dans son édito Riz, qui poursuit « La haine qui nous a frappés est toujours là et depuis 2015, elle a pris le temps de muer, de changer d'aspect pour passer inaperçue et poursuivre sans bruit sa croisade impitoyable. » Voilà donc pourquoi le journal a choisi de publier de nouveau ses caricatures sous ce titre en une « Tout ça pour ça », une publication que salue avec enthousiasme l'ancien rédacteur en chef Philippe Val.
C'est génial, c'est une idée de Riz, ça m'étonne pas de lui parce que il a un instinct journalistique formidable. Pourquoi republier ces caricatures? Il faut relire le jugement de 2007, où la présidente du tribunal, enfin, où le tribunal, c'est-à-dire la République, s'est exprimé en disant que la publication de ces caricatures ouvrait un débat d'intérêt général. Il est normal qu'au moment de ce procès, Riz les republie, bien évidemment.
Et à côté de ces caricatures, on retrouve également celles restées célèbres de Cabu, où l'on voit un prophète qui se lamente. C'est dur d'être aimé par des cons, Cabu, toujours en une donc, lui qui fut évidemment l'une des victimes du 7 janvier 2015, des collègues, des amis que Riz évoque avec émotion. Le temps de ce procès parviendra peut-être, écrit-il, à remplacer le silence de leur absence par le murmure de leurs souvenirs.
Merci Rémi Bostaron. Réaction ce soir du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Il appelle à ignorer ces caricatures et à penser aux victimes du terrorisme.
Et on en parlera très largement dans le Club des idées, le grand débat à partir de 19h15. La France est-elle toujours Charlie? On sera notamment avec le dessinateur Plantu.
C'est une info qu'Europe 1 vous révélait ce matin. Le cimentier Lafarge pris en flagrant délit de pollution environnementale.
Oui, dans le quartier de Bercy, à Paris, à deux pas d'ailleurs du ministère de l'économie. Selon nos informations, une de ces centrales de béton situées en bord de Seine rejette délibérément dans le fleuve des particules de ciment et des fibres plastiques.
L'affaire a été transmise à la justice. justice et elle est prise très au sérieux par la mairie de Paris qui a réagi cet après-midi, Justin Morin.
Oui, Anne Hidalgo, la maire de Paris, dénonce un scandale écologique. La mairie accuse Lafarge de plusieurs fautes. D'abord, de défaut de surveillance sur cette centrale à béton située dans le 12e arrondissement de Paris. Mais surtout, les élus s'interrogent et doutent des arguments avancés par Lafarge. Pourquoi le cimentier a attendu hier soir 23h pour les prévenir alors qu'il était au courant depuis la semaine dernière des faits rapportés? Depuis combien de temps cela dure? Et est-ce réellement la conséquence d'un acte malveillant comme l'entreprise le prétend? La mairie de Paris ne semble pas convaincue. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, attend désormais beaucoup de l'enquête.
C'est inacceptable et il faut qu'ils comprennent que le temps de l'impunité des acteurs industriels qui ne respectent pas l'exigence environnementale au regard de leurs intérêts strictement financiers industriels est terminé. Et que nous comptons aussi pour Port de Paris pour qu'il fasse son travail. Son travail, c'est de contrôler les lieux qu'il met en concession sur son domaine et dont les Parisiens, et puis au-delà, évidemment, l'environnement en général, subissent les conséquences.
Suite à ces révélations, l'adjoint au maire a parlé de nouveaux témoignages et de nouvelles photos de riverains. Ils auraient constaté des faits similaires sur d'autres sites de Lafarge à Paris. Ces documents ont été transmis à la justice.
Justin Morin pour Europe 1.
Un camp de migrants évacué à Paris ce matin. Il avait été installé sur le parvis de l'hôtel de ville.
Oui, en plein cœur de la capitale, dans l'espoir d'attirer l'attention des décideurs politiques. La mairie a décidé de les accueillir provisoirement dans une salle en attendant de trouver une solution.
18h05, la suite du journal avec vous Isabelle Millet. La suite justement de la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth, près d'un mois après l'explosion qui a tué près de 200 personnes dans la capitale libanaise.
Le président français qui continue à mettre la pression sur les autorités libanaises avec beaucoup de questions concernant la transparence. Adrien Beck, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth.
Oui, Emmanuel Macron transformé en une sorte d'inspecteur à la rencontre des ONG libanaises ce matin pour tenter de savoir si l'aide d'urgence est bien arrivée. Et ce n'est pas vraiment le cas, s'est plaint le patron de la Croix-Rouge libanaise.
Nous avons reçu beaucoup d'avions. Où sont passés tous ces avions et où sont les médicaments?
Emmanuel Macron a pris note.
Le défi que vous avez évoqué, c'est un défi organisationnel dans un climat, et tout se retrouve toujours dans la crise politique, vos propos l'ont dit, où la défiance est un poison.
Mais la visite du jour est avant tout très politique et à risque pour le chef de l'État. Il sait mettre tout son poids politique dans la résolution de cette crise. Alors la nomination d'un Premier ministre, les discours tenus ces dernières heures par les leaders libanais, eh bien Emmanuel Macron ne veut pas dire si cela va ou pas dans le bon sens.
Moi je ne crois que les actes. Il y a le choix d'un Premier ministre dans un temps record par rapport à la vie politique libanaise contemporaine. Je pense que maintenant, il faut qu'il y ait un gouvernement de mission le plus vite possible et qu'il y ait derrière un programme de réforme qui commence le premier jour. Et là, on verra, on pourra commencer à être optimiste.
Et le chef de l'État qui annonce qu'il reviendra une nouvelle fois au Liban, ce sera en décembre pour la troisième fois en moins de 6 mois.
Adrien Beck qui suit donc pour Europe 1 cette visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth.
Et puis le Liban, on en parle à partir de 18h20 avec notre invité ce soir, Fouad Smokol, qui est le président du MEDEF libanais. La politique côté français cette fois et cette question, les Républicains pourraient-ils passer un accord avec Emmanuel Macron et le soutenir à la présidentielle de 2022?
Eh bien c'est ce que souhaite en tout cas le maire LR de Nice, Christian Estrosi. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1 nous a rejoint dans ce studio. Ce qui est sur Aurélie, c'est que ces propos de Christian Estrosi ont créé un émoi certain même au sein de la droite.
Ah oui, je peux vous dire qu'ils sont nombreux à s'être étranglés chez LR en découvrant son interview dans le Figaro. Et les amabilités fusent, misérable, pathétique coup de com', envie de devenir ministre, recherche d'alliance avec En Marche pour que la droite ne perde pas la région PACA en mars prochain. Bref, Christian Estrosi, Macron compatible depuis le début du quinquennat, est isolé. Sauf qu'il appuie là où ça fait mal avec cette phrase, pour le moins cruelle. Il existe beaucoup de talents chez nous, mais soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne s'impose pour concourir à la présidentielle. Et c'est tout le problème de la droite, coincé entre Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Il n'y a pas d'évidence pour 2022. François Baroin entretient le flou au point de faire douter ses amis. Bruno Retailleau s'échauffe. Hors du parti, vous avez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui avancent leur pion. Certains finissent même par dire à voix très basse qu'Édouard Philippe pourrait être un recours. En clair, LR ne sait vraiment pas trop vers qui se tourner pour mettre fin à un cycle d'échecs. Rappelons-le, 2012, la défaite de Nicolas Sarkozy. 2017, François Fillon, même pas qualifié pour le second tour. Alors l'échéance est encore très très loin. Les scénarios écrits à l'avance sont généralement démentis. Mais le fait est que la droite ne pense qu'à la présidentielle avec un soupçon d'angoisse.
Bien, merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
À suivre
Europe 1. Julien Bugier.
À suivre dans votre journal de 18h des nouvelles de ce premier jour de classe. Le retour en cours masqué, oui, pour plus de 12 millions d'élèves. On en parle après la pause.
Et puis des nouvelles aussi de la quatrième étape du Tour de France, remportée par l'un des favoris, le Slovène Primoz Roglic.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal d'Isabelle Millier, 18h10, il est l'été redouté par certains, cette rentrée scolaire inédite, et bien finalement, il semblerait, jusqu'à présent, que tout se soit plutôt bien passé.
Je ne sais pas quels sont les retours de vos enfants, Julien, mais globalement, oui, c'est vrai.
Je vous dirai demain 8h.
Voilà, globalement, la joie des retrouvailles a rapidement pris le pas sur l'inquiétude qu'il pouvait y avoir autour des mesures sanitaires. À l'entrée des écoles ce matin, on ne voyait pas les sourires sous les masques, c'est vrai, mais on sentait l'impatience de retrouver une vie normale.
Lionel Gougelot a accompagné toute cette journée les élèves et les enseignants du collège André Malraux de Lambre-les-Douais, dans le Nord. Tout de suite, premières impressions de cette première journée masquée.
Des visages masqués mais des yeux grands ouverts, dans la classe de Madame Picavé, les élèves s'adaptent tant bien que mal à cette nouvelle contrainte.
Avec le tissu, ça, il fait chaud, déjà en plus avec le soleil et tout.
Ça me dérange parce que ça gratte au nez.
Avec le masque, on est obligé de parler un petit peu plus fort parce que sinon, on risque personne va attendre en fait.
Et en même temps, aujourd'hui, l'enseignante a dû veiller à la bonne utilisation de ce masque.
Déjà, je fais attention à moi parce que j'ai tendance à le tripoter beaucoup moi-même. Et souvent, on est obligé de dire tu rentres le petit nez, qu'on met pas les mains. Dans le temps, on va de plus en plus adapter ses réflexes et ses gestes.
Professeur principal d'une classe de 6e, Madame Crépin, elle craint que ce masque l'empêche de bien percevoir les réactions de ses élèves.
L'expression du visage est très importante puisque ça nous permet de voir également si l'élève a compris ce qu'on lui enseigne, s'il a des interrogations. Et là, effectivement, il va falloir deviner les choses, les sentir, regarder les yeux. Les yeux sont très expressifs aussi. On va travailler plus avec les yeux qu'avec le visage complet.
Un masque qui crée une distance entre la classe et le professeur, regrette Nathalie Ledien, maman d'une élève en difficulté.
Moi j'ai une inquiétude, ma fille est dyslexique, donc forcément il y a eu ce confinement et maintenant cette rentrée avec ce masque qui risque peut-être de l'éloigner encore plus que maintenant. Quoi.
Alors cette maman espère maintenant une attention et une vigilance accrue de toute l'équipe enseignante. À Lambre-les-Douais, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et seul petit couac signalé pour l'instant sur cette rentrée à Amiens, 25 collégiens ont été mis en quatorzaine après le test positif au coronavirus d'une adolescente côtoyée lors d'un stage de remise à niveau la semaine dernière. Ils ne pourront retourner à l'école que la semaine prochaine.
C'est ce qu'on appelle un faux départ. Un échec pour le laboratoire français Sanofi.
Son essai clinique international de phase 3 qui testait l'efficacité de son médicament Kevzara dans le traitement des formes sévères du Covid-19. Eh bien, cet essai, malheureusement, n'a pas donné de résultats concluants. Les vidéos tournées au quartier Mistral à Grenoble qui ont fait tant polémique et dont on avait parlé ici sur Europe 1, déclenché une passe d'armes même entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Grenoble. Eh bien, ces vidéos faisaient partie d'un clip de rap. Son auteur assure aujourd'hui que la drogue et les armes étaient factices.
2020, année noire pour le tourisme. L'Espagne a fait les comptes. Elle a perdu, tenez-vous bien, 75% de touristes internationaux en juillet.
Alors que la Pologne annonce qu'elle interdira à partir de demain les vols directs en provenance de 44 pays, dont l'Espagne justement, mais aussi Israël et la Roumanie, afin d'éviter une résurgence de l'épidémie.
Et puis les curieuses méthodes de l'Indonésie, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus.
Des cercueils vides portés par des hommes en combinaison de protection blanche ont défilé dans les rues de Jakarta aujourd'hui. En signe d'avertissement aux habitants, les porteurs de ces convois funéraires arboraient même des coiffes représentant des pokongs, ce sont les fantômes locaux, pour effrayer la population.
Bien, sympa. Le Tour de France maintenant, le sport. Première arrivée au sommet à Orcières-Merlette, dans les Hautes-Alpes.
Et c'est une quatrième étape qui a été remportée par l'un des favoris de ce tour. On vous retrouve en direct, Axel May, tour que vous avez suivi avec attention. Le Slovène Primoz Roglic, donc, a remporté cette étape.
Oui, vous avez raison. Le numéro 1 mondial a demandé en fait à son équipe, les Jumbo-Visma, d'imprimer un tempo très important dans la relativement courte ascension menant à Orcières-Merlette. Et dans les derniers hectomètres, le Slovène a porté son attaque. Julien Alaphilippe a bien tenté de réagir. Il lui a manqué un peu de jump. Vous savez, ce coup de rein, cette giclette qui font la différence. Alaphilippe comprend vite qu'il ne gagnera pas. Il se rassoit sur sa selle. C'est la troisième victoire de Roglic sur le tour. Il devance un autre Slovène plein de talent, Tadej Pogacar. Suivent le Français Guillaume Martin, troisième. Le Colombien Nairo Quintana, quatrième. Et Alaphilippe, cinquième. Alaf, l'un de ses surnoms, conserve son maillot jaune. 4 secondes d'avance sur le Britannique Adam Yates. Mais attention, désormais à la troisième place du classement général, il y a Roglic, 7 secondes de retard seulement. L'ancien sauteur à ski slovène, et oui, il était sauteur à ski avant d'être cycliste, confirme qu'il est bel et bien l'un des favoris pour gagner la grande boucle. Le vainqueur sortant, Egan Bernal, est lui aussi en embuscade. J'aurais quand même tendance à dire, Isabelle, sans vouloir mettre précocement un terme au suspense, que Roglic a montré ce soir que c'est lui le patron de ce Tour de France.
Un sportif complet en tout cas. Merci beaucoup Axel May qui suit pour Europe 1 ce Tour de France.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et on vous retrouve tout à l'heure, Isabelle Millet, pour le rappel des titres, 18h30 et le Grand Journal à 19h. La météo avec Anissa Haddadi. Anissa, vous nous annoncez de la fraîcheur et en même temps du soleil pour demain. Choisir, chère Anissa.
Une bonne et une moins bonne nouvelle. Bon voilà, il faut un peu pour tout le monde. Nous avons toujours effectivement la protection de cet anticyclone qui permet au soleil de bien s'installer sur la France. Et ça, ça fait du bien. Demain, en début de journée, sur le Grand Est, l'Auvergne et le Centre-Val de Loire, nous aurons des petites grisailles matinales. Prudence si vous prenez la route tôt demain matin. Ces grisailles vont se dissiper au fil des heures, partout ailleurs. C'est du soleil. Dans l'après-midi, sur la pointe bretonne, le ciel se couvre. C'est normal parce qu'approche un front chaud. Les températures vont bien remonter.
Bien remonter, effectivement. Elles vont remonter, les températures.
Ça me choque, que voulez-vous, ça me rend heureuse. Vendredi, les températures vont avoisiner les 30 degrés. Demain, il fait encore frais. 4 à Aurillac, 6 à Vannes, 12 à Paris et 18 à Nice le matin. Et puis dans l'après-midi, 21 à Lille et Strasbourg, 23 à Paris et Rennes, 24 à Limoges, 28 à Marseille et 29 à Nîmes.
Et ben nous, on va remonter la météo tout à l'heure à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Merci Anissa. Dans quelques secondes, la France au chevet du Liban. Le président Emmanuel Macron a-t-il convaincu? On en parle avec notre invité, le président du patronat local, Fouad Zmokol. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité à 18h20 dans Europe Soir, il est le président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde et attend beaucoup de l'influence française pour la reconstruction de son pays. Bonsoir Fouad Zmokol. Merci.
Bonsoir à vous et à Europe 1.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, comment jugez-vous la visite aujourd'hui du président Macron? On a un peu l'impression, vu de France, que le ton a sensiblement changé et qu'il est plus conciliant avec la vieille garde politique libanaise qu'il l'a été il y a un mois quand il est venu la première fois.
Bon, écoutez, merci de poser cette question. Donc, je vais revenir sur la première visite et la deuxième visite. Le président Macron, d'abord, est le premier président de tout pays extérieur au Liban qui a visité le Liban après cette explosion criminelle, dramatique, cette tragédie, cet apocalypse. Et il faut rappeler que le président français a été reçu en héros parce qu'il a pu visiter les quartiers détruits, il a pu visiter une population complètement désemparée, complètement violée dans son propre appartement, et il a vraiment donné un support moral,
mais
psychologique,
aujourd'hui,
il a été accueilli comme héros.
Mais aujourd'hui.
Mais justement, alors j'arrive sur la deuxième visite. Donc, en tout cas, deux jours après l'explosion, ce qu'une population a besoin était d'un support moral. Bon. Aujourd'hui, nous arrivons quand même un mois après l'explosion. Ce que le secteur privé libanais, ce que les entreprises demandent, ce que la population demande, c'est bien sûr un plus. Et finalement, il faut rappeler que juste avant l'explosion, que le Liban faisait face à une crise économique et sociale sans précédent. Il faut dire qu'on était au bord de la faillite, pour ne pas dire en pleine faillite, et on avait besoin d'un support économique et un support financier et bien sûr des pressions politiques. J'arrive exactement à où vous voulez arriver. Nous savons très bien que si nous sommes arrivés à cette situation extrêmement difficile à tous les niveaux, ce qui s'est passé, c'est non seulement une explosion qui s'est passée au port de Beyrouth, mais une explosion due à la corruption, à la mauvaise gestion, à des vols qui ont été pour pouvoir faire face à cette situation, monsieur.
Mais aujourd'hui, vous disiez il y a un mois après l'explosion qui a ravagé la ville et fait, je le rappelle, 190 morts, qu'il faut faire table rase de la classe politique actuelle. Est-ce que, question concrète, est-ce que le nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé, Mustapha Adib, fait partie de cela? Et c'est un homme de paille?
Regardez, c'est pas une question entre blanc ou noir, aussi simple que ça. Finalement, la personne, enfin le Premier ministre nommé Mustapha Adib, est une personne plus ou moins, je dirais, indépendante, mais qui faisait partie, ou plutôt employée, entre guillemets, de la même classe politique. A rappeler qu'il était le directeur du bureau du cabinet d'un ancien Premier ministre, Najib Mikati, qui a été obligé de démissionner, qui a été ambassadeur du Liban en Allemagne, qui a eu quand même un sort de lot de consolation après la démission du Premier ministre, qui revient aujourd'hui. Ce n'est pas la question est-ce qu'il fait partie du lot ou pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a le pouvoir de changement?
Je réponds
tout de suite que non. Aujourd'hui, il n'a pas du tout une possibilité de changement. La raison directe, et pour être très clair, aujourd'hui, on a une classe politique, et c'est très clair, et j'aimerais que toutes les personnes qui nous entendent savent que finalement, le Liban, les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir au Liban, c'est des personnes qui ont eu une guerre entre eux durant 15 ans qui a coûté 250 000 morts. Et à la fin de cette guerre, on a ramené toutes ces personnes pour faire un support de pacte où ces mêmes personnes, on leur a donné des positions. Un est devenu président, premier ministre et autres. Et ces mêmes personnes ont eu un découpage du gâteau durant 30 ans. Donc, ils ont détruit le Liban, finalement, complètement sur 15 ans. Et ils ont détruit
Quelle solution, Fouad Mokhol, pour s'en sortir? Par exemple, le président Aoun appelle à un pacte laïque pour sortir le pays de ses petits arrangements confessionnels. Est-ce que vous y êtes favorable ou vous dites, là aussi, c'est une diversion et ça ne changera rien?
Je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Bien sûr que c'est une diversion, pas parce que ça vient du président, parce que malheureusement, la population libanaise, les entreprises, et je dirais même la communauté internationale, a perdu confiance. C'est faisable quand on n'a plus confiance. Donc finalement, même s'il y a des promesses qui soient fondées ou pas, malheureusement, bon, c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis 30 ans. On me dit quoi faire, et je vais vous répondre directement, et c'est très important de passer ce message. Finalement, cette même classe politique, il faut la sortir de sa zone de confort. Ils sont sur une zone de confort après 40 ans de pouvoir. Pour les sortir de zone de confort, voilà où le président Macron, voilà où la France, voilà où la communauté internationale peut aider en faisant des sanctions directes. En faisant des sanctions directes sur ces personnes, à savoir que la plupart de leurs fonds, qu'ils ont délapidés ou autres, ont été transférés en dehors du pays. Oui. Aujourd'hui, pour sortir ces personnes, tous confondus, et j'appelle ça les PEP, en anglais, c'est Politically Exposed People, pour les sortir de leur zone de confort, il faut faire des sanctions directes. En mettant des sanctions directes, d'abord, on les empêche de revenir aux élections, à savoir que même si nous faisons des élections anticipées aujourd'hui, on sait que les élections sont financées par l'argent de la corruption qui va revenir au Liban pour amener les mêmes personnes. Aujourd'hui, si nous allons sur des projets de privatisation qui sont une des seules possibilités économiques de sortir de ce marasme, c'est d'ouvrir la privatisation. Alors, qui peut aujourd'hui privatiser plus que ces mêmes politiciens qui ont dans l'argent en dehors du Liban?
Fouad Mokhol, il nous reste quelques instants. Je voudrais simplement qu'on parle avec vous de la situation dans le pays. L'ancienne ambassadrice du Liban en Jordanie disait ce matin que le pays est au bord de la famine. Est-ce que c'est le cas?
Écoutez, pour donner des chiffres exacts, les derniers chiffres de la Banque mondiale disent que plus que 50% de la population vit plus bas que le seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté qui est égal environ à 4 ou 5 euros par jour. Donc je vous dirais, on est au bord de l'effritement, au bord de la famine, je dirais oui, pour une simple raison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à cet instant, la Banque centrale finance les trois denrées alimentaires nécessaires, dont le pain, le pétrole et l'essence, en grande partie, et les médicaments. Aujourd'hui, la Banque centrale est presque en faillite. Si la Banque centrale n'est pas renflouée, et je dis bien à l'international, finalement, d'ici quelques mois, ou peut-être un ou deux mois, on ne pourra plus subventionner ces trois biens de nécessité extrême. Et bien sûr, on pourra arriver à une famine dramatique sur un pays, malheureusement, qui fleurissait il y a quelques années.
En quelques mots, est-ce que la vie, quand même, a réussi à reprendre son cours? Il y avait 300 000 personnes qui avaient perdu leur logement au lendemain de l'explosion. Est-ce qu'elles ont pu être relogées ou retournées dans leur appartement?
Regardez, finalement, il y a un point qu'on a très souvent relevé, qui est la résilience libanaise. Je peux vous dire que le même jour, les personnes essaient de reconstruire, échanger, etc. Mais il faut en même temps dire qu'on ne veut surtout pas que ce message passe, parce que finalement, ce qui s'est passé le 4-8 2020 est un drame et une tragédie. On ne veut surtout pas que la vie reprenne comme certains politiciens veulent. Au contraire, on veut que ce qui s'est passé, finalement, au moins le sang de ces disparus ou de ces blessés ou de ces familles complètement détruites serve. Finalement, cette explosion est une des plus grandes explosions du monde, qui s'est passée à cause d'une corruption qui s'est passée sur un terrain tenu par l'État, supervisé par l'État. Donc finalement, on ne veut surtout pas que la vie reprenne comme elle était. Au contraire, on veut rebâtir sur des bonnes bases. Donc
Merci Fouad Mokhol d'avoir été avec nous en direct dans Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Éric Dupond-Moretti a-t-il raison de refuser l'emploi du terme ensauvagement? On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 18h29, le rappel des titres, Isabelle Millet.
Et dans le monde entier, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école masqués. C'était aujourd'hui le jour J, vous le savez, pour les petits Français, mais aussi pour les Belges, les Russes et les Ukrainiens, après leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais. En France, port du masque obligatoire, bien sûr, pour les enseignants et pour les élèves à partir de 11 ans. En Grèce, il sera exigé dès la maternelle et en Espagne, dès 6 ans. Nous ne renoncerons jamais. Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet qui en avait fait une cible des djihadistes à la veille de l'ouverture du procès des attentats qui ont décimé sa rédaction en janvier 2015. Un scandale écologique, dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, après les révélations d'Europe 1 ce matin à propos de cette pollution de la Seine par le cimentier Lafarge qui rejette directement ses déchets dans le fleuve. Lafarge se dit victime d'un acte malveillant et assure qu'il qu'il ne s'agit pas d'un acte volontaire de sa part. Et puis un couvre-feu de 2 semaines entre en vigueur ce soir à La Havane, la capitale cubaine confrontée à un rebond des cas de Covid-19 depuis un mois.
Merci Isabelle, on vous retrouve pour le grand journal de l'info à 19h.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec vous, Anissa. La tendance qui va se maintenir demain, ça va à peu près ressembler à ce qu'on a connu aujourd'hui dans le ciel partout en France.
C'est exactement ça, un temps agréable sur une grande partie du pays avec le soleil qui fera de très belles percées. Il sera même très présent au bord de l'Atlantique et dans le sud. Et puis sur la pointe bretonne, nous aurons demain après-midi quand même un ciel un petit peu plus couvert avec quelques gouttes possibles sur les reliefs de l'Est et en Corse. Là aussi, des petites averses sont prévues, notamment en altitude. Sachez qu'hier, il a neigé tout de même à Val Thorens.
Il
a neigé à Val Thorens hier. Alors vous allez voir que ça va se calmer puisque les températures vont nettement remonter pour cette fin de semaine. Demain, il fait encore frais, 4 à 18 degrés le matin, 12 à Paris et 20 à 29 degrés demain après-midi.
Ben voilà, à peine l'été fini, on va déjà devoir sortir les moon boots, les moon boots du placard. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h31, le débat des grandes voix, évidemment, comme chaque soir, avec à mes côtés en studio ce soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Julien.
C'est une petite phrase prononcée ce matin au micro d'Europe 1 qui suscite la polémique. On savait que le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti garderait sa liberté et son franc-parler, eh bien il l'a exercé ce matin en refusant le terme d'ensauvagement utilisé récemment par le ministre de l'Intérieur Darmanin, et il a dit ceci.
L'ensauvagement, c'est un mot qui développe le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose. Par quoi est-il nourri le sentiment d'insécurité ? D'abord, par les difficultés économiques que traverse notre pays. Par certains médias, autrefois, vous appreniez un crime. On poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'infos continues, c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes, mais c'est le même en réalité. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste. La surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence.
Et j'ai tenu à ce qu'on passe l'extrait dans son intégralité, parce qu'il dit plein de choses là-dedans, Éric Dupond-Moretti. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, Charles Villeneuve, on va commencer avec vous. Il y a le fond, on va en parler dans quelques secondes, et puis il y a la forme. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette sortie du ministre ?
Moi, je pense que le ministre a été choisi pour ça, si vous voulez, pour qu'il garde les qualités de son verbe, parce que c'est un excellent plaideur, mais aussi c'est un excellent démolisseur. Et dans l'attirail gouvernemental, le président de la République n'avait pas un ministre, si vous voulez, à la rhétorique capable de répondre, si vous voulez, à des opposants extrêmement agressifs. Et ça a été le cas ce matin.
Mais c'est quand même pas un problème qui contredit son ministre de l'Intérieur ?
Alors, je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a en quelque sorte un homme politique qui est né ce matin, qui a fait sa mue. Il avait commencé à la faire en allant aux universités d'été des écologistes. Mais là, il est vraiment, il a, si vous voulez, revêtu la toque d'homme politique. Et je trouve que contrairement à pas mal de commentateurs qui disent que c'est classique entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, je pense que ça dépasse cette frontière-là. Parce qu'il accuse en quelque sorte le ministre de l'Intérieur, à cause du mot, de l'emploi du mot ensauvagement, de faire le lit du populisme.
Oui.
Donc ça va beaucoup plus loin. C'est une véritable un affrontement entre les deux.
Oui, oui. Et puis c'est une conviction intime, je pense, de la part du ministre Dupond-Moretti. C'est une ligne de fracture au sein du gouvernement, Monsieur Carrérou.
C'est une Monsieur. Merci,
Monsieur Carrérou.
Merci de m'appeler Monsieur. Je suis un vieux Monsieur, effectivement.
Ah bon?
Non. Alors soyons sérieux 2 secondes. Dupond-Moretti, pour moi, c'est pas une révélation. Effectivement, beaucoup de gens, peut-être, ont trouvé que c'était révélateur, l'interview qu'il a donnée ce matin à Sonia Mabrouk. Révélateur de quoi ? Qu'il n'est pas un homme sécuritaire, il est tout le contraire d'une politique sécuritaire, il est plutôt à gauche, disons les choses clairement, il est plutôt à gauche, son tropisme personnel est plutôt à gauche, et là, il le marque.
Il ne s'en cache pas, hein,
alors, il ne, non, mais qu'il ne s'en cache pas, c'est une chose, mais effectivement, beaucoup de gens, quand ils ont vu le remaniement, changement, etc., ils se sont dit peut-être qu'il était sur une ligne, après tout, comme le gouvernement.
Mais donc, pardon Gérard, mais donc, ça n'est pas ce qu'il dit. Il dit « l'insécurité, ce sont des faits, le sentiment d'insécurité, c'est fantasmé ».
Non,
c'est vrai.
Non, c'est pas vrai, puisque même les chiffres, les derniers chiffres, montrent des hausses dans un certain nombre de compartiments, si vous voulez, les chiffres officiels, de 15 à 30% selon les cas. Non, c'est pas vrai.
Pas les chiffres de victimisation, mais vous savez qu'il y a débat sur les chiffres.
Je sais qu'il y a débat sur les chiffres. Mais les gens qui nient effectivement la montée de la sécurité sont ceux effectivement qui parlent. Ils ont trouvé un argument. Ils disent c'est pas l'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité.
Oui.
C'est une thèse que je conteste absolument.
Bien.
Il y a une montée d'insécurité. De même que je conteste la thèse qui consiste à dire, vous savez, ça a toujours existé. C'était comme ça dans les dernières années.
Non. Alors,
ça, c'est une thèse qui a
non,
aussi...
Non, mais c'est démenti aussi, Julien, pour poursuivre justement le raisonnement de Gérard, c'est démenti par le Premier ministre. Le Premier ministre, Jean Castex, a fait une mise au point en disant, de toute façon, non pas une explosion des chiffres, mais que la délinquance, la violence progresse.
Alors, on va l'écouter, le Premier ministre Jean Castex, qui a fermé le banc, comme il dit.
Nous parlons d'un sujet grave qui est l'insécurité. La question n'est pas les mots qu'on emploie pour qualifier le phénomène, mais les actions que l'on met et que l'on va mettre en place pour y faire face. Donc, fermer le banc, il n'y a aucune polémique.
Voilà, fermer le banc, il n'y a pas de polémique.
Mais ça, c'est pas vrai. Attendez, il y a deux lignes.
Parce que,
écoutez.
Attendez, Gérard Carreau, il dit quand même quelque chose d'intéressant. Avant d'aller sur le...
Oui.
Sur le parce qu'on a le temps d'en parler. Hein, on va en parler longuement jusqu'à 19h. On va aller sur le fond et sur la réalité des chiffres de l'insécurité. Voilà, entre fantasmé, réalisme, comme le dit Dupond-Moretti et comme le dit Darmanin. Mais d'abord, sur l'expression et le champ lexical de ce terme sauvage, qui a aussi une valeur qui vise, disent certains, à déshumaniser une partie de la population. On n'est plus des individus. On est des sauvages. Est-ce que vous comprenez cet argument, Charles Villeneuve ?
En tout cas, moi, je l'ai compris parce que j'ai lu un livre d'une politologue de gauche qui s'appelle Thérèse Delpech et qui est la paternité de ce concept, de ce mot. C'est à elle qu'on le lui doit, qui a écrit un livre sur la violence des rapports internationaux, de la diplomatie internationale, de la géopolitique internationale, mais aussi du délitement des rapports sociaux. Et c'est elle qui a longuement développé justement le fait que de plus en plus les actes de délinquance parfois avaient une notation de barbarie quasiment. Et donc, je le crois volontiers parce que c'est peut-être le confinement qui a fait ceci, mais à la fin du confinement, on a assisté à des scènes absolument pour un masque, quatre individus qui tuent un conducteur de bus, pour un masque là aussi dans une laverie automatique.
Beaucoup d'émotions après un certain nombre de faits divers.
Absolument. Et c'est vrai pour une infirmière qui à Lyon est traînée sur 800 mètres.
Oui.
Donc il y a une violence, si vous voulez, une exaspération de cette violence qui correspond au terme ensauvagement.
Alors on marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes, 18h38, on continue à parler de cette polémique et de la réalité des faits derrière les chiffres entre Darmanin d'un côté et le ministre Éric Dupond-Moretti. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix, comme chaque soir, 18h39, on est en direct dans le studio d'Europe Soir avec Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Et on parle ce soir de cette petite phrase prononcée ce matin au micro d'Europe 1 qui suscite la polémique. Éric Dupond-Moretti garde sa liberté et refuse de parler d'ensauvagement. Il dit ceci: je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leurs bas instincts, parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Gérard Carreau.
Alors, je conteste tout à fait ça. Il suffit, écoutez d'ailleurs, demandez aux Français...
Mais il utilise le mot « sentiment
».
Il ne dit pas « l'insécurité ».
Demandez aux Français autour de vous s'ils ont le sentiment qu'ils fantasment quand ils voient la violence d'un certain nombre d'actes.
Oui.
Il y a donc, et soyons clairs, en politique,
mais faut,
ça s'appelle...
Il faut se méfier de la boussole au doigt mouillé.
Oui, non mais d'accord, mais je vous dis, c'est trop facile de dire, écoutez, vous avez le sentiment d'insécurité. Alors effectivement, le sentiment d'insécurité, ça remplace l'idée qu'il y a une insécurité. Mais il y a deux lignes au gouvernement. Effectivement, il y a une ligne sécuritaire qui est dans la tradition, disons, pour simplifier les choses, dans la tradition Pasqua. Et cette ligne-là est incarnée aujourd'hui par Darmanin et son langage correspond à cette tradition. L'ensauvagement, Charles a eu raison de rappeler... L'auteur, c'est Mme Delpech. Ce n'est pas particulièrement quelqu'un qui vient de l'extrême droite. On a souvent dit que c'est un terme d'extrême droite. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a popularisé ce terme.
On dit ça parce qu'on se souvient que Jean-Marie Le Pen, dans les années 70 déjà, parlait d'immigration sauvage.
Oui, mais attendez, le mot sauvage,
entre les deux mots qui résonne aujourd'hui.
Alors, si vous prenez les filiations de mots, je suis tout à fait d'accord avec vous, prenez aussi la filiation de chevènement qui vous parle des sauvageons. Car tout commence avec
ce qui avait suscité la polémique.
Oui, les sauvageons, c'est des actes de sauvagerie. Des actes de sauvagerie, aujourd'hui, ça marque, quand il y en a un, c'est pas grand-chose, quand il y en a des centaines, c'est l'ensauvagement d'une société.
Oui.
Et c'est ça qui est dit. Donc, Darmanin est sur cette ligne-là.
Et Darmanin, Gérald Darmanin, ce soir, persiste et signe, puisqu'il déclare ceci, écoutez-le.
On peut être en désaccord sur les mots, on est d'accord sur les actions communes avec monsieur le garde des Sceaux. Moi, je respecte évidemment, bien sûr, l'opinion de mon collègue Éric Dupond-Moretti. On peut utiliser des mots différents. Moi, personnellement, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. Mais au-delà de ces mots qui peuvent choquer, je peux comprendre d'ailleurs la sensibilité des uns et des autres, c'est les situations qui sont extrêmement choquantes.
Voilà, on sent qu'on a mis de l'huile dans le moteur entre les deux hommes.
Ils ne veulent pas ouvrir effectivement une plaie béante quelques semaines après le remaniement gouvernemental. C'est ce qu'a fait Castex, le Premier ministre, en disant, bon, en gros, il a essayé d'éteindre le petit feu qui commençait. Mais moi, je vous parle de la réalité. Oui. La réalité, il y a un vrai problème de divergence politique. Regardez, prenez sur d'autres points. Dupond-Moretti, par exemple, il est contre la prison. Oui. C'est un avocat, il est contre les prisons.
Il n'est pas contre la prison, il est contre le tout carcéral.
Il est contre. Demandez-lui un jour, quand vous l'aurez, prochainement, ou à Europe, oui. Demandez-lui s'il est d'accord pour construire de nouvelles prisons, comme il le faudrait. Eh bien, il vous répondra que non. Moi, j'ai eu ce débat ici, sur Europe, avec lui.
Parce qu'il dit qu'il est avocat et qu'il sait que la prison, ça ne fonctionne pas. Oui. Parce que quand on rentre en prison avec un petit CAP de voleur, on finit avec un bac pro de braqueur. La
prison, ça ne sert peut-être à rien, sauf à protéger la société. Et quand, par exemple, quelqu'un sort de prison qui n'aurait pas dû sortir et commet un crime horrible, eh bien, on peut se dire que s'il avait fait sa peine de prison, la jeune fille serait toujours vivante. Bien.
Alors, ce que Beccaria disait au XVIIIe siècle, déjà, dans des délits et des peines, qui est l'un des grands hommes de réflexion, un philosophe de l'action pénale notamment, il disait « ce qu'il y a d'important dans la peine, c'est la certitude de la peine. Et c'est ce qui dissuade. C'est cette certitude-là. Et c'est cette certitude qui est battue en brèche. » Mais là où je trouve que Dupond-Moretti a en partie raison, sur le sentiment, si vous voulez, de l'insécurité, c'est qu'en effet, les chaînes info, notamment, mais pas seulement, martèlent en permanence, pendant plusieurs jours, de toute façon, un fait divers qui
donc
est caractérisé
c'est anxiogène,
par
c'est
sa
ce que
violence.
Vous voulez dire.
Oui,
ça développe
ce sentiment-là. Là-dessus, je pense qu'il a raison.
Et on continue d'en parler dans quelques secondes. On parlera, tiens, vous l'avez évoqué, Gérard Carrérou, de la réponse pénale, notamment. Y a-t-il, comme on l'entend parfois, une forme de laxisme de la justice? Quelle est la réalité, là aussi, derrière le fantasme? On en parle après la pub. A tout de suite, 18h44.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours à 18h47 en direct dans Europe Soir, le débat des grandes voix, comme chaque soir avec à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et on évoque évidemment la passe d'armes entre Éric Dupond-Moretti et le ministre Gérald Darmanin sur la question et sur le mot précisément d'ensauvagement. Alors juste avant la pause, on évoquait la réalité des chiffres. On va parler de la réponse judiciaire, de la réponse pénale dans quelques secondes, la réalité des chiffres sur la délinquance. Alors j'ai écouté, moi, l'interview du chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui publie chaque année une grande enquête et il dit ceci. On ne peut pas nier qu'il y a un niveau élevé de violence, mais on ne peut pas dire non plus que l'on est dans une explosion de cette violence. Charles Villeneuve.
Moi, je suis d'accord sur l'utilisation...
Et pardon, il ajoute « attention à la loupe qu'opèrent les vidéos des réseaux sociaux ». Alors, je ne suis pas du tout en train de nier que... Voilà, mais je répète simplement ce que dit ce monsieur, qui est le directeur de l'Observatoire national de la délinquance.
Moi, je suis d'accord sur l'utilisation du mot « explosion ». Je crois qu'il est inapproprié. Ce qui n'est pas inapproprié, c'est de constater, de dire, comme l'a dit d'ailleurs Jean Castex dans sa mise au point tout à l'heure, cet après-midi... il y a une progression.
Oui.
Bon. Et cette progression, il n'y a pas d'explosion. Il y a une progression. Et cette progression, pourquoi elle fait problème à l'heure actuelle? Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que le président de la République a une obsession. C'est de ne pas gouverner comme François Hollande et surtout de ne pas finir comme Lionel Jospin.
Oui.
Il y a un syndrome, c'est celui du piège de la sécurité. Il ne faut pas oublier qu'il a coûté très cher à Lionel Jospin le 21 avril.
Qui a fait sous-estimer la problématique sécuritaire lors de l'élection présidentielle.
Il a cru qu'en améliorant les chiffres de l'emploi, il aurait amélioré aussi, si vous voulez, le problème de l'insécurité. Faire baisser l'insécurité. Or, ça n'a pas été le cas. Il est bien évident qu'aujourd'hui, lorsque vous avez tous les uniformes détenteurs de la puissance publique qui sont caillassés, parfois même... Il n'était pas détenteur de la puissance
l'autorité,
publique.
L'autorité de l'État,
le conducteur
est mis à mal
de Bayonne, qui a été assassiné. Tous les autres sont caillassés. Maintenant, on y ajoute les maires. 546 agressions contre des maires l'année dernière. Oui. Ça, je ne sais pas si c'est dans les
chiffres d'agression de l'Observatoire national de la délinquance.
Voilà. Mais en tout cas, il sait très bien que ça a une forte portée dans l'esprit public. Ça déverse de l'acide, si vous voulez, sur son action en ce qui concerne la sécurité.
Mais est-ce que vous êtes d'accord, Gérard Carreau, en un mot, et puis après on passe à la justice pour dire, comme il l'a dit ce matin, avec les mots qui sont les siens, la France n'est pas un coupe-gorge quand même.
Il y a plus... Écoutez, personne n'a parlé d'explosion, en tout cas pas moi, ni Charles. Il y a une augmentation, mais il y a dans l'augmentation, et c'est ça le plus intéressant, un changement de nature de ces actes de criminalité. Certains actes, aujourd'hui, sont particulièrement, et c'est là l'origine du mouvement sauvagement, ces actes sont particulièrement écœurants, repoussants par leur violence.
Parce que gratuit.
Voilà. Et alors, ce qui donne aussi un sentiment d'insécurité, puisque vous aimez le mot « sentiment d'insécurité », qui est, moi, je dirais,
insécurité. Moi, je l'aime pas, c'est parce que c'est du pont
moréthique, il l'a dit ce matin. On va pas polémiquer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand un homme qui a été condamné à 18 ans de prison, c'est pas une peine minime, c'est une forte peine. Vous me direz, il y avait quand même 9 viols et 3 tentatives. Mais quand même, 18 ans de prison, on peut concevoir que l'opinion dise, bon, il fera ses 18 ans de prison. Oui. Donc, mais le problème vient dans l'application des peines. Ce n'est pas le tout du prononcé des peines. Le prononcé des peines est une chose, l'application des peines rend les gens fous. Savoir que cet homme condamné à 18 ans...
Là, vous faites référence au violeur. Voilà. Mais on n'est pas dans l'ensauvagement, là. On est dans un problème, un cas à part.
Mais c'est vrai aussi pour les sauvages.
Oui.
Quand un sauvage, si vous prenez entre guillemets, quand un sauvage sera condamné à 15 ans ou 10 ans et qu'il en fait 4, enfin, en gros, il fait une grosse moitié... Les gens ne peuvent pas comprendre.
En plus qu'une grosse moitié, Gérard.
6 sur 10.
En plus qu'une grosse moitié. On va parler de la justice dans un temps. Mais pour répondre à ce que vous dites, sur la question de la récidive, n'importe quel expert, n'importe quel juriste sérieux vous dira le risque zéro, ça n'existe pas.
Non, mais il y a l'exemple américain, quoi qu'on dise, 1, 2, 3, le premier coup, je condamne, une petite peine, le deuxième coup, une peine un peu plus lourde, le troisième coup, je vous mets une forte peine.
Bien.
Or, en France, on est incapable de faire ça, sinon le violeur n'aurait pas violé 9 fois.
Alors, la réponse pénale sur la question de l'ensauvagement, évidemment, la droite s'en donne à cœur joie depuis quelques jours, et notamment Rachida Dati, qui, sur notre antenne, a dit ceci.
Non, il n'y a pas de politique pénale.
Il n'y a pas de politique pénale.
Mais une politique pénale, je vais vous dire, quand vous êtes garde des Sceaux, c'est vous, effectivement, qui l'impulsez. Et donc, la politique pénale se fait en conséquence de quoi? En fonction de la politique de sécurité que détermine le gouvernement. Mais quelles sont les priorités en matière de lutte contre l'insécurité en France déterminées par ce gouvernement?
Alors, y a-t-il un problème d'efficacité de la justice, Charles Villeneuve? Moi, il y a un chiffre qui m'épate, que j'ai découvert il y a peu de temps. Selon le Conseil de l'Europe, la France consacre 65,90 € par an et par habitant à la justice. Vous savez combien c'est en Allemagne? 122 €. 122 €.
Non, mais sur les moyens, de toute façon, de l'application, justement, de la politique judiciaire et de la politique pénale, il est bien évident que la France n'a pas donné à la justice les moyens. C'est certainement, si vous voulez, le poste le plus pauvre de la distribution budgétaire au gouvernement. Mais en ce qui concerne la réduction des peines, il faut savoir que si la réduction des peines ne s'applique pas quasiment automatiquement, c'est-à-dire 3 mois pour la première année et 2 mois pour les années suivantes, vous ne pouvez plus gérer une prison. Une prison, c'est en cela de toute façon que je suis pour la réduction des peines, parce que c'est une carotte indispensable pour gérer le chaudron de la prison. Sinon, il va se transformer, si vous voulez, et surtout, il va être transformé, oui, en chaudron explosif. Et souvent, j'ai passé un mois à faire un reportage, il y a longtemps, si vous voulez, dans le droit de savoir, sur la prison, comment vivre ensemble à perpétuité. J'ai passé 15 jours dans la prison où il y a les plus hautes peines, notamment Clairvaux, hein, où on met en général les psychopathes les plus dangereux. Eh bien, s'ils n'ont pas, si vous voulez, les gardiens de prison, s'ils n'ont pas, et le juge d'application des peines, s'il n'a pas la carotte de la réduction de peine, regardez comment on peut amener une explosion par exaspération de la plupart de ces détenus.
Il ne faut pas oublier,
j'ajoute simplement, et c'est important d'y ajouter, s'y ajoute un crédit de réduction de peine qui est accordé à ceux qui font un effort pour faire des études, pour obtenir des diplômes scolaires ou universitaires, pour préparer leur reconversion.
C'est le principe de la rédemption.
Oui, alors ça, simplement, moi je suis d'accord avec la position d'un quelqu'un qui connaît bien le problème, qui est l'ancien procureur Philippe Bilger.
Oui.
Philippe Bilger dit, effectivement, on peut admettre une politique pénale dans laquelle il puisse y avoir des condamnations et des réductions de peine, sauf dans des cas, effectivement, qu'on peut définir. On peut dire, par exemple, que les terroristes où les auteurs de crimes sexuels, comme celui qui a été relâché il n'y a pas longtemps, là, et qui a commis un crime odieux, on peut très bien dire que ceux-là iront jusqu'au bout de leur peine. Parce que je comprends la politique qui consiste à avoir la carotte, si vous voulez, pour éviter que les prisons s'en... Encore que, je vous signale, je ne suis pas un apôtre du système américain permanent, mais je vous dirais quand même qu'en Amérique, on a des gens qui meurent en prison à 80 ans ou à 85 ans. Ils sont condamnés à perpète, ils exécutent leur peine.
Aux États-Unis, on a aussi la peine de mort, ce qui n'est pas souhaitable.
Non, mais je n'ai pas parlé... Attendez, ne parlez pas d'autre chose que ce dont je vous parle. La peine de mort, c'est autre chose. Je vous parle de l'exécution des peines.
Mais en Amérique, que c'est dissuasif? Est-ce que vous avez l'impression que la société américaine est moins violente que la société française?
Non, elle est très violente. Mais aussi, il y a les armes. Alors, on peut parler aussi des armes. Mais pour répondre à Charles Villeneuve, les prisons américaines ne s'embrassent pas tous les ans. Il y a eu quelques exemples célèbres, comme Attica, par exemple, il y a quelques années, où il y a eu 150 morts. Mais il n'y a pas tous les ans des prisons qui s'embrasent aux États-Unis. Donc, on peut dire qu'on peut gérer des prisons. À condition... Il y a d'autres principes que celui de les relâcher simplement pour...
Merci Gérard. Un mot, Charles.
Un mot. Depuis 2016, il n'y a pas de crédit de réduction de peine pour les actes et les crimes terroristes.
Bien.
En France.
Merci. Et le terrorisme, on en parlera tout à l'heure dans le grand débat à 19h15. La démocratie en question et la liberté d'expression, la France est-elle toujours Charlie? Ce sera le débat du Club des Idées avec nos invités. On se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h. A tout de suite.
Même ceux...